VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 13h à Abidjan et à Conakry, 15h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, en Côte d'Ivoire, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre devait être rendue publique mercredi après-midi par le Conseil constitutionnel. Le président sortant, Alassane Ouattara, briguant un deuxième mandat face à une opposition morcelée. Le chef de l'État, qui peut se targuer d'un bon bilan économique, est le grand favori de ce scrutin crucial pour la stabilisation du pays après la crise post-électorale de 2011. Pas moins de 33 personnes ont déposé leur candidature, dont certaines folkloriques. Et l'annonce de la liste par le Conseil constitutionnel devrait de facto donner le coup d'envoi de la campagne, même si celle-ci n'est censée commencer que le 11 octobre prochain. En Guinée, une semaine s'est écoulée sans que l'on enregistre de nouveaux cas d'Ebola dans le pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le docteur Bruce Allward, responsable de la lutte contre l'épidémie qui frappe l'Afrique de l'Ouest pour l'Organisation mondiale de la santé. C'est la plus longue période enregistrée sans nouveaux cas d'Ebola en Guinée depuis mars l'an dernier, a-t-il précisé. La prudence reste toutefois de mise car la période d'incubation du virus est de 21 jours. Situation toujours instable au Burundi. Deux malfaiteurs armés ont été tués dans deux affrontements distincts avec l'armée depuis lundi dans les environs de la capitale burundaise, Bujumbura. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources militaires. Dans les deux cas, des civils contactés sur place assurent que les assaillants étaient en tenue militaire et fortement armés. Les violences n'ont pas cessé depuis la réélection du 21 juillet du président Pierre Nkurunziza, avec notamment l'assassinat du général Adolphe Chimirimana, considéré comme le numéro 2 du régime, et de nombreux assassinats politiques touchant le camp présidentiel et l'opposition. En Algérie, deux islamistes armés ont été tués aujourd'hui par l'armée algérienne dans le département de Boumerdès, situé à 50 km à l'est d'Alger. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense sur son site internet. Les deux hommes ont été tués lors d'un ratissage de l'armée dans cette région où opèrent, selon les autorités, des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En juillet, une dizaine de soldats avaient été tués dans une embuscade à 150 km au sud-ouest d'Alger. Une embuscade revendiquée par ACMI. Selon le ministère de la Défense, plus de 60 islamistes ont été tués depuis le début de l'année et une centaine en 2014. Malgré l'adoption en septembre 2005 d'une charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page de la guerre civile qui a fait 200 000 morts dans les années 90, des groupes armés islamistes restent actifs en Algérie où ils s'en prennent généralement aux forces de sécurité. La guerre contre Boko Haram au Nigeria, l'armée a interdit l'usage des chevaux dans l'état de Borno pour tenter de mettre fin aux attaques de la secte islamiste. Le point avec Dili Diko.
L'interdiction de l'usage des chevaux dans l'état de Borno a été annoncée par le colonel Tukur Gusao, porte-parole de l'armée, après des discussions avec le gouvernement et un conseil de chefs traditionnels. Cette décision fait suite à des attaques de combattants présumés de Boko Haram à la fin août dans trois villages du nord-est. Des hommes à cheval ont tué au moins 80 personnes et quelques jours plus tard, des dizaines de personnes ont été tuées dans une attaque similaire. Le porte-parole militaire a d'autre part précisé que l'avancée de l'armée dans la région avait bouleversé l'organisation des islamistes en coupant leur voie de ravitaillement, y compris en carburant. Selon lui, les terroristes ont alors été obligés d'abandonner leurs véhicules et d'utiliser des chevaux pour mener leurs attaques.
RDC, une commission mixte d'experts congolais-rwandais s'attelle actuellement à redéfinir les frontières de 1911 entre les deux pays, d'où la décision des autorités congolaises de démolir les constructions illégales dans la zone neutre séparant la ville de Goma en RDC et de celle de Gisenyi au Rwanda, une zone neutre censée mesurer 6,25 m de part et d'autre. Côté congolais, les pioches et bulldozers sont déjà en train de raser les habitations concernées. Le reportage de notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka.
Au moins 200 ménages seront frappés par la mesure. Déjà, certaines maisons construites anarchiquement dans la zone sont par terre. C'est un grand bulldozer qui fait le travail sans pitié. Au milieu des pleurs et des grognements des habitants du quartier Birere, le long de la frontière rwando-congolaise, dont certains y vivent depuis plus de 30 ans maintenant. Ces familles passent la nuit à la belle étoile et ne savent plus à quel sens se vouer.
En fait, nous sommes derrière la petite barrière.
Bon, moi je suis derrière.
Non, donc ma parcelle commence par ici. Maintenant, quand on est en train de nous démolir comme ça, sans rien nous indemniser, vraiment ce n'est pas normal. Ça, c'est la violence des domiciles quand même.
Moi, je suis un habitant d'ici parce que mon père existe ici même avant 1960. Oui, toute la terre appartient à l'État, mais même si ça appartient à l'État, quand même l'État doit faire quelque chose pour sa population.
Mais c'est Rachid Toumboula de la commission mixte indique tout de même qu'une aide sociale d'une somme de 100 dollars américains sera donnée aux familles des guerriers par les autorités congolaises. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
Et puis RDC toujours, Martin Kobler, le représentant spécial de l'ONU sur place, proteste contre l'interdiction dans le pays du film « L'homme qui répare les femmes » consacré au combat du gynécologue congolais Denis Mukwege en faveur de milliers de femmes violées. Monsieur Kobler estime que l'interdiction de ce documentaire est une atteinte inadmissible à la liberté d'expression et demande instamment aux autorités congolaises de revenir sur leur décision. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Charles Bambara, chef de l'information publique de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. Réalisé par le cinéaste belge Thierry Michel et sa compatriote journaliste Colette Bratman, L'homme qui répare les femmes montre l'œuvre du docteur Mukwege dans son hôpital de Pamzi à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu. Les autorités congolaises disent avoir interdit la diffusion de ce documentaire parce qu'à leur avis, il témoigne d'une volonté manifeste de salir l'image de l'armée nationale. Et puis en Somalie, les djihadistes somaliens Shabab ont affirmé aujourd'hui détenir des soldats ougandais à la suite d'une attaque contre une position de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie. Kampala réfute, affirmant qu'aucun de ses militaires n'est porté disparu. Le 1er septembre dernier, les Shabab s'étaient rendus maîtres de la base de Janal, située dans le sud de la Somalie, durant quelques heures, et avaient affirmé avoir tué une centaine de soldats de l'AMISOM. Aucun soldat ougandais n'avait alors été disparu par Kampala. Des sources militaires occidentales incorporées à l'AMISOM avaient toutefois estimé qu'au moins 50 soldats ougandais avaient été tués et qu'une autre cinquantaine était portée disparue. Selon ces mêmes sources, quelques 25 soldats somaliens avaient également été tués.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et puis le reste de l'actualité dans le monde, face à l'afflux massif et ininterrompu des demandeurs d'asile en Europe, l'Allemagne demande à l'Union européenne d'ouvrir davantage ses portes. Pour sa part, dans une allocation au Parlement européen aujourd'hui, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exhorté les pays de l'Union européenne à faire preuve de solidarité et à accepter 160 000 réfugiés. Jacques Aristide.
Ce n'est qu'un premier pas, selon la chancelière allemande Angela Merkel, qui appelle à un système plus ouvert de quotas obligatoires pour ces personnes qui ont un droit à l'asile. La seule petite île grecque de Lesbos accueille plus de 20 000 candidats à l'exil, soit le quart de sa population. La Grèce, débordée, permet à ces migrants de passer vers la Macédoine, la Serbie, la Hongrie ou encore l'Autriche pour rejoindre leur destination rêvée, l'Allemagne. Ce pays s'attend à 800 000 demandes d'asile rien que cette année. Le gouvernement britannique propose d'accueillir 20 000 migrants sur 5 ans. La France pourrait accepter 24 000 réfugiés dans les deux prochaines années. Federica Mogherini, qui dirige la diplomatie européenne, a appelé tous les pays européens à agir avec le même courage, même de l'autre côté de l'Atlantique, le Venezuela, le Brésil et le Québec se disent prêts à participer à cet élan de solidarité.
Les Libanais ont de nouveau commencé à manifester mercredi à Beyrouth pour exprimer leur ras-le-bol de la classe politique qui, sous la pression de la rue, se réunit pour tenter de trouver une issue à la paralysie de l'État. Déclenchée par la crise des déchets qui dure depuis près de 2 mois, le mouvement de protestation inédit de la société civile avait appelé à 2 rassemblements en matinée dans l'après-midi dans le centre de la capitale placée sous haute surveillance. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Restez avec nous 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.